Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Laïd. Vous écoutez la classe de SMG1 du lycée Guy Maupassant à Colombes sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
On se retrouve aujourd'hui parce qu'une partie de la classe a vu le spectacle Entre Chien et Louvre au théâtre à l'avant-scène à Colombes. Ce spectacle fait par la compagnie Cirque Le Roux a été réalisé spécialement pour le Bon Marché Rive Gauche à Paris. C'est une œuvre qui mélange théâtre, cirque et danse, qui plonge les spectateurs dans une fresque historique traversant trois époques, 1870, 1960 et 2022. À travers le destin de trois personnes qui évoluent dans des contextes différents, le spectacle parle de thématiques fortes, par exemple la mémoire collective, la révolte et l'émancipation. Attention, à partir de maintenant, je vais devoir vous spoiler. Les deux personnages féminins principaux sont tués à la fin par leur mari. C'est donc aussi un spectacle qui parle des violences faites aux femmes et du féminicide. C'est pour ça que le reste de la classe va parler de ces sujets dans notre émission. Et d'ailleurs, je leur laisse la parole tout de suite.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Merci Laïd. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Narine Beladji et je vais vous présenter notre émission « Sous l'heure bleue ». Une émission qui donne la voix aux femmes victimes de violences pour partager leur histoire et combat. Comment ça va, Lindise ?
Ça va et vous ?
Ça va. Aujourd'hui, tu viens de nous parler de plusieurs célébrités qui ont été victimes de violences conjugales et un état des lieux des violences faites aux femmes ces dernières années en France et dans le monde.
Exactement. Les violences faites aux femmes peuvent également toucher les grandes célébrités. Par exemple, en 2009, la chanteuse Rihanna a été battue par son ex-petit ami Chris Brown. Il vivait un amour toxique. En 2020, la chanteuse Megan Thee Stallion s'est fait tirer une balle dans le pied par son ex petit ami rappeur qui s'appelle Tony Lasner. Et en 1997, à l'âge de 17 ans, la rappeuse Diams a été victime de violences conjugales. Même les célébrités ne sont pas à l'abri des coups et de bleus. Ça peut toucher tout le monde. En 2024, les services de police et de gendarmerie enregistrent 122 600 victimes de crimes et de délits à caractère sexuel. 85% de ces victimes sont des femmes. Que ces violences soient commises dans l'affaire familiale ou dehors, que les victimes soient majeures ou mineures. Pour en conclure, les violences faites aux femmes sont une violation des droits humains qui nécessite une mobilisation collective pour mettre fin à ce fléau et garantir à toutes ces femmes un environnement de sécurité, de respect et d'égalité. Okay.
Merci à Paul, Annick, Jaila, Linlise et à la technique. Je vous laisse avec Amira qui va nous présenter tout de suite son émission.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour, merci Nariman, je suis Amira et je vais animer la suite de cette émission. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Nassim, tu reçois Teddy Riner, vous allez nous parler de votre engagement contre les violences conjugales faites aux femmes.
Aujourd'hui, nous recevons Teddy Riner, une légende du judo, 10 fois champion du monde et triple champion olympique. Bonjour Teddy Riner.
Bonjour, merci de m'avoir accueilli.
Bienvenue au studio, on est content de vous recevoir. Vous avez participé à des campagnes publiques pour la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. J'aurais des questions à vous poser. En tant que sportif de haut niveau et figure influente, pensez-vous que le sport a un rôle à jouer dans la sensibilisation contre les violences faites aux femmes ?
Bien sûr, le sport a un rôle énorme à jouer dans cette lutte. Il véhicule des valeurs comme le respect, la discipline et l'entraide. En tant que sportif, on a une voix qui porte et c'est important de l'utiliser pour sensibiliser et dire clairement que les violences faites aux femmes sont inacceptables.
De nombreux athlètes sont considérés comme des modèles pour la jeunesse. Pensez-vous qu'ils ont une responsabilité particulière dans la lutte contre ces violences ?
Oui, on a une responsabilité. Beaucoup de jeunes nous regardent, nous prennent en exemple, donc on doit montrer la bonne attitude. Ça passe par notre comportement au quotidien, nos prises de parole et aussi par le fait de ne pas fermer les yeux quand on voit quelque chose qui ne va pas.
Ok, très bien. Avez-vous déjà été témoin de comportements sexistes ou violents dans le milieu sportif ?
Oui, j'ai déjà entendu ou vu des comportements déplacés dans le milieu du sport. Dans ces cas-là, il ne faut pas laisser passer. Moi, je n'hésite pas à recadrer et à rappeler que le respect, c'est la base. On ne peut pas accepter ce genre d'attitude, peu importe qui on est.
Selon vous, comment pourrait-on mieux éduquer les jeunes sportifs et le grand public sur ce sujet ?
Selon moi, tout commence dès le plus jeune âge. On doit apprendre aux enfants, aux jeunes sportifs, que la force ne sert pas à dominer, mais à protéger. Il faut aussi parler de ces sujets plus ouvertement dans les clubs, les écoles et dans les médias. Plus on éduque, plus on avance.
Je suis d'accord avec vous. Quel message aimeriez-vous adresser aux femmes victimes de violences et aux hommes qui veulent aider dans cette lutte ?
Si j'ai un message à leur adresser, ce serait de leur dire que vous n'êtes pas seuls, il y a des gens qui peuvent vous aider, vous écouter. Il ne faut jamais avoir honte d'en parler. Et aux hommes, on a un rôle à jouer aussi en dénonçant, en éduquant, en étant exemplaire. On doit être du bon côté de cette lutte.
Très beau message de Teddy Riner. Merci d'avoir participé à notre émission. Et je vais donner la parole à Mira.
Teddy Riner, merci d'être venu dans notre studio. On était ravis de vous recevoir. Merci Nassim pour avoir mené cette interview. La suite arrive sur Les Affranchis et c'est Célia qui animera la suite de cette émission.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Soran, je suis en compagnie de Célia. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire des viols de Mazan. C'est une affaire judiciaire française qui a marqué cette fin d'année 2024 par son ampleur et sa gravité. Entre 2011 et 2021, Gisèle Pellicot a été victime de viols répétés qui ont été orchestrés par son mari Dominique Pellicot. Dominique Pellicot a drogué sa femme à son insu, ce qui a permis à des dizaines d'hommes de la violer. Les faits se sont déroulés principalement dans la ville de Mazan, dans le Vaucluse.
Procès qui s'est tenu du 2 septembre au 18 décembre 2024 à Avignon a été exceptionnel par le nombre d'accusés. 51 hommes ont été jugés, dont 46 reconnus coupables de viols aggravés. Les peines prononcées allant de 3 ans de prison, dont un an ferme, à 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot. Ce dernier n'a pas fait appel de sa condamnation, tandis que 13 autres accusés ont interjeté l'appel, conduisant à un second procès prévu à Nîmes en 2025.
Ce procès a suscité une large couverture médiatique et a été perçu comme un moment clé dans la lutte contre les violences sexuelles en France. Les débats ont mis en lumière des questions cruciales sur le consentement, la culture du viol et la nécessité d'une prise de conscience collective face aux violences faites aux femmes. Les avocats de la victime ont notamment plaidé pour une sensibilisation accrue de la société afin de provoquer un changement de mentalité.
L'affaire a également provoqué une introspection au sein de la société française, notamment parmi les hommes sur la question de masculinité et de violence sexuelle. Certains y ont vu une prise de conscience collective de la domination masculine, tandis que d'autres ont refusé de se sentir responsables des actes de quelques individus.
En somme, l'affaire des viols de Mazan constitue un tournant historique dans la lutte contre les violences sexuelles en France, mettant en lumière la nécessité de réformes sociales et juridiques pour combattre ces violences.
D'un point de vue sociétal, ce procès met en lumière la banalisation du viol et le silence complice qui l'entoure. Le fait que 51 hommes aient été impliqués dans cet acte et que certains aient tenté de minimiser leurs responsabilités en dit long sur la perception du consentement dans notre société. Ce n'est pas juste un crime individuel, c'est un système de domination qui s'est exercé sur une victime rendue vulnérable.
Sur le plan judiciaire, même si les condamnations ont été prononcées, le fait que certaines accusées aient obtenu des peines relativement légères, 3 ans dont un an ferme, peut interroger sur la sévérité des sanctions en matière de violences sexuelles. Cela pose aussi la question de la prise en charge des victimes. Gisèle Pellicot a vécu une décennie d'abus avant que la justice n'intervienne. Comment de telles horreurs peuvent-elles perdurer aussi longtemps sans être détectées ?
Donc maintenant, vous en savez plus sur le procès de Mazan.
Je passe la parole à Zakaria qui va vous présenter une chronique musicale.
Le féminicide est un sujet qui apparaît de manière récurrente dans les textes de Damso. Souvent sous forme crue et dérangeante, il aborde les relations toxiques, la violence conjugale et parfois même les meurtres de femmes dans un même contexte narratif ou métaphorique.
Et son avenir proche, les anges de l'enfer l'escortent. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. Je m'en fous de ce qu'elle veut tant que j'ai ce qu'il me faut. 13 ans déjà, mon premier rapport. Depuis, mon cœur a fermé la porte. Aussi bizarre que cela puisse paraître, après l'avoir qu'elle voulait qu'elle disparaisse.
Débrouillard, Amsetier, NJ Respect R. Certains considèrent que Damso dépeinte la violence de la manière crue, voire complaisante dans tes morceaux. D'autres estiment que tu mets en lumière des réalités sociales sombres et que tu adoptes parfois un point de vue critique envers les violences. Penses-tu que ta musique a contribué à dénoncer ces violences ou au contraire à les banaliser ?
Elle n'avait pas pour réel but de banaliser ce genre de choses. J'avais pour but tout d'abord de dénoncer avant d'engrainer une sorte de haine envers moi. Parce que ce genre de sujet, bah, c'était pas réellement abordé dans la musique en ce moment, dans le sens où on était dans une ère où il y avait énormément de trap, ce qui est un genre de rap très violent avec l'effervescence de Kari, XV Barbar ou bien ce genre de rappeur qui prône la haine et la violence envers la plupart des femmes, ou qu'il faut passer des messages qui sont contraignants par rapport aux femmes dans leur musique.
Quel est ton objectif lorsque tu abordes des thèmes comme le féminicide dans tes morceaux ?
Alors j'ai pour but de dénoncer ce genre d'actes au travers de ma musique afin de tirer profit de ma popularité auprès des jeunes, car je sais que je suis énormément écouté par énormément de jeunes du coup. Et via ça, vu que j'ai signé récemment dans le label 92i, celui de Booba, ça m'a fait exploser en popularité. Du coup, j'en ai profité pour faire passer un sort de message.
As-tu déjà ressenti le besoin de clarifier ou de défendre certaines de tes paroles face aux critiques ?
Bien sûr, après l'engouement que tout cela a pris, je me devais de contredire les accusations mensongères que j'ai pu recevoir à mon encontre. Face à la presse, j'étais pas grand-chose, car cela s'est passé au début de ma carrière. Et je me suis fait boycott par énormément de plateformes de streaming telles que Spotify, qui ont littéralement enlevé ma musique de leur plateforme pendant un certain temps. Et on a réussi à se relever en proposant certains feats avec des femmes qui prônaient autant le féminicide, enfin le féminisme que moi. Et j'en suis fier.
Ok, merci. Toujours dans le débat de la façon dont Damso traite les féminicides dans ses textes, certains dénoncent une banalisation de la violence. On échange avec un haters pour comprendre son point de vue et sa responsabilité des artistes. Penses-tu que Damso glorifie réellement la violence ou qu'il la dénonce en la mettant en scène de manière crue ?
Non, je pense qu'il faut arrêter de dire que Damso dénonce la violence. Il en parle tout le temps, mais il la rend stylée avec sa musique et ses paroles. Au final, ça donne l'impression que c'est normal, que c'est juste comme ça. S'il voulait vraiment la dénoncer, il l'aurait fait de manière qui donne envie de la refuser, pas juste de l'accepter. Par exemple, dans son titre « Débrouillard » en 2016, Damso raconte l'histoire d'un homme qui tue une femme après une dispute.
Ok, mais pourquoi accuser un rappeur ? Pourquoi accuser un rappeur de promouvoir la violence quand un film et un livre sur le féminicide, on ne reçoit pas la même critique ?
Parce qu'un film ou un livre, ça montre la violence pour faire réfléchir, pour choquer et dénoncer, alors que Damso, il la balance dans ses sons avec des punchlines stylées et des instrus qui donnent envie de bouger la tête. Au final, ça devient juste un truc cool à écouter, pas un vrai message contre la violence. Il y a une différence entre raconter pour faire réfléchir et raconter pour faire kiffer.
À ton avis, quelle est la responsabilité qu'un artiste a vis-à-vis de son public ?
Pour moi, il a la responsabilité de donner l'exemple dans ses musiques en disant des choses concrètes sur des sujets importants de la société, comme par exemple les violences faites aux femmes, car ils ont beaucoup d'audience et la plupart ce sont des jeunes et qu'ils s'inspirent souvent des idées des rappeurs, et ils doivent être là pour dénoncer et pas forcément faire bouger la tête des fans.
Ok, merci. Bon, c'était la fin de l'interview entre Damso et un haters. Merci de nous avoir écoutés.
Tout est reloin des beaux bâtiments, remorie de sombres châtiments. C'était la dernière fois que je sentais son pouls. Elle était morte et pourtant je lui ai dit I love you. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le tien. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que le tien.
Bonjour, merci Zakaria. Bienvenue dans notre émission qui parle des violences faites aux femmes à travers le cinéma. Attention, petit avertissement pour nos auditeurs et auditrices, nous allons parler de sujets qui peuvent être durs. nous avons avec nous Gina qui va nous présenter le film The Girl Who Escaped, réalisé par Simon Stock.
Oui, effectivement, Farah, je vais vous parler du film The Girl Who Escaped, inspiré de faits réels réalisés en 2023 par Simon Stock. Cara Robinson, une jeune fille de 15 ans en Floride aux États-Unis, est abordée par un homme qui la menace avec une arme et la kidnappe. Il la garde captive à son domicile et la violera pendant 18 heures. Elle réussit à mémoriser un maximum d'informations et de détails tout au long de son calvaire. Elle finit par s'enfuir pendant que son ravisseur est en train de dormir et on finit par apprendre que son ravisseur est Richard Evonitz, un tueur en série responsable des meurtres non résolus d'au moins 3 autres jeunes filles. On peut retrouver Cara Robinson sur TikTok qui parle de son histoire pour aider un maximum de femmes qui ont pu se retrouver dans ce genre de situation.
Ah oui, d'ailleurs, ton histoire me fait penser à un autre film sorti le 27 février 2021, The Girl in the Basement, réalisé par Elizabeth Rom, qui est lui aussi inspiré de faits réels. Il raconte l'histoire de Sarah, une jeune adolescente qui attend d'avoir 18 ans pour pouvoir quitter sa maison où vit son père, mais il est autoritaire avec elle. À ses 18 ans, il écrit une lettre en se faisant passer pour Sarah. Dans la lettre, il dit qu'elle part avec son copain, mais ceci était faux, car son père l'a séquestrée dans sa cave. Il l'a violée et l'a frappée. Sarah a eu 2 enfants de son père. Après plusieurs années, elle fait croire à son père qu'elle est très malade. Il l'emmène à l'hôpital. Sarah en profite pour demander de l'aide. J'ai décidé de parler de ce film car il fait référence au thème « Les violences faites aux femmes ». Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation aujourd'hui, il y a des associations et numéros qui peuvent vous venir en aide. Comme
l'association Le Collectif Féministe contre le viol, ou bien En Avant Toutes, qui agit pas mal pour les jeunes. Il y a un chat d'écoute gratuit et un coin sensibilisation. Il y a aussi l'avocate Karine Durieux-Diebolt, qui défend les victimes de violences sexuelles. Vous pouvez la contacter au 01 42 71 56 10.
Merci Dina, et maintenant nous allons laisser la parole à Ryan, qui va nous parler du théâtre et du cinéma.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour Gina et Farah, merci pour cette présentation. Bienvenue dans notre émission Le Débat du Soir. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Le cinéma est-il plus efficace que le théâtre pour aborder le thème de la violence faite aux femmes? Pour en discuter, nous accueillons un invité. Notre invité surprise du jour est Steve McQueen, de son vrai nom Stephen Rodney McQueen, né le 9 octobre 1969 à Londres. Est un artiste contemporain et réalisateur britannique. Il remporte le Turner Prize en 1999. Bonjour.
Bonjour.
Il sera interviewé par Zifou. Donc Zifou, je vous laisse la parole.
Bonjour. Alors, on va passer par la première question directement. Alors, quelles sont les différences entre le cinéma et le théâtre qui pourraient influencer la perception des causes féminines?
Les différences entre le cinéma et le théâtre sont que déjà, le cinéma a une plus grande audience. Donc le cinéma a une diffusion mondiale grâce aux salles, aux plateformes de streaming et à la télévision, ce qui lui permet de toucher un public plus large que le théâtre, souvent limité à une ville ou à des tournées par exemple. On peut dire des stats également. En 2024, nous comptons 180 millions d'entrées en salle de cinéma française, tandis que pour les pièces de théâtre, on a seulement une influence de 12 millions de personnes. 12 millions de personnes, ça reste beaucoup, mais on est beaucoup, beaucoup plus bas que les standards du cinéma.
Sans plus attendre, nous allons passer par la deuxième question. Quel rôle jouent les réalisatrices et les scénaristes dans la représentation des luttes féminines au cinéma comparé au théâtre?
Les réalisatrices et les films et les scénaratrices, pardon, apportent une vision plus authentique des luttes féminines au cinéma, tandis qu'au théâtre, la mise en scène et les textes jouent un rôle clé dans cette représentation. Les personnages féminins au théâtre sont souvent développés, sur scène et en temps réel, alors qu'au cinéma, le montage et les gros plans permettent souvent d'explorer leur psychologie différemment et de nous montrer les personnages sous un aspect différent et avec plus de complexité.
Alors, nous allons passer par la dernière question. Le cinéma a-t-il un impact plus durable sur la société en ce qui concerne les questions féministes et pourquoi?
Donc le cinéma laisse une empreinte durable grâce à sa capacité d'archivage et de rediffusion. Donc le théâtre repose sur l'instant présent et la mémoire du spectateur, ce qui va à l'encontre totale du cinéma, qui lui, par sa capacité d'archivage justement, peut permettre aux auditeurs de revisionner certains films, qui permet du coup au message pardon, qui est donné à travers ce film d'être partagé de plus nombreuses fois que les pièces de théâtre. Des films comme Les Suffragettes marquent les esprits par leur esthétique et leur narration, tandis que des pièces comme Les Monologues du Vagin impactent par leur performance en direct et leur engagement interactif. Donc voilà, ça sera tout pour répondre à la question du journaliste.
Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Pour conclure, on a un dernier invité, M. Idriss Aberkane, qui est un psychologue spécialisé dans les violences faites aux femmes. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la question principale du cinéma ?
Alors, pour moi, le cinéma, c'est un moyen particulièrement efficace pour parler des violences faites aux femmes, contrairement aux autres formes de narration telles que le théâtre, car il combine l'image, le son et l'émotion. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, nous, on va dire à l'époque des hommes primitifs, nous, on était, on savait pas forcément lire, mais on voyait et on écoutait, c'est-à-dire qu'on on récepte beaucoup mieux les informations par la vue et le son, car c'est des réflexes qu'on avait avant. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'éprouver quelque chose par rapport à ça. Par exemple, quand on regarde un film, on a une immersion émotionnelle beaucoup plus forte. Il nous permet de voir et de ressentir la souffrance, par exemple, du personnage principal ou d'autres personnages, on va dire, qui ont plutôt souffert. On a, comme l'ont dit mes collègues avant, on a une plus grande portée universelle. C'est beaucoup plus accessible, on va dire. Donc pour conclure, le cinéma est un outil puissant pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les violences faites aux femmes. Son impact émotionnel et sa diffusion à grande échelle font un changement majeur. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. C'est la fin. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. La suite arrive sur notre radio 92 Life.